Ah bah quand même, on applaudit quand c'est en direct, parce que à froid comme ça, la flûte pas chauffée. Donc on parlera donc de Monsieur de Pourceaugnac et de musique baroque. Sur le 106.6 de Radio Campus jusqu'à 14h. Metteur en scène et fondateur du festival Les Malins Plaisirs à Montreuil-sur-Mer, Vincent Tavernier a développé au cours des quelques 80 productions qu'il a à son actif un goût pour l'opéra, le théâtre musical et le théâtre baroque, notamment Molière. Il propose en ce moment la comédie-ballet de Molière Lully, Monsieur de Pourceaugnac, à l'atelier lyrique de Tourcoing. François Lajarevitch, qu'on a entendu tout à l'heure en direct nous jouer un petit air de flûte, est directeur artistique des musiciens de Saint-Julien. Il dirige, il pratique évidemment les flûtes, mais aussi les cornemuses anciennes et traditionnelles, et assure les directions musicales de Monsieur de Pourceaugnac dans la production de Vincent Tavernier. Alors Vincent Tavernier, qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce fameux goût français dont il faudrait d'ailleurs tenter une définition?
Alors, je crois que là, on est mal parti.
Et on a un quart d'heure.
Mettons les choses au clair. J'aime pas beaucoup les définitions. Et en plus, je commence par définition, c'est qu'à de le dire. Définir un art ou un goût est une entreprise périlleuse. Il faut plutôt le penser comme une recherche, comme une, comme une approche et comme une curiosité surtout. Et comme un plaisir. Je pense que c'est ça aussi ce qui nous guide dans toutes les recherches artistiques. C'est cette découverte, cet enrichissement permanent, ces couches successives, ces oignons dont on enlève peau après peau les couches et dont on découvre avec merveille qu'il y a toujours plus profond, toujours plus beau et toujours plus intéressant.
Et cette merveille se situe quand même dans la musique française principalement.
Il se trouve qu'avec les Malins Plaisirs, c'est vrai que j'ai essayé avec les comédiens, les chanteurs, les musiciens qui m'entourent de comprendre ou d'explorer ou de me frotter à tout ce qu'était cette expression peut-être des 17e et 18e siècles, plus particulièrement en France. En France, tout en se disant que justement ce qui est une des forces de cette esthétique ou de cet art et qui n'est pas non plus propre spécifiquement à cette époque, on le retrouve à d'autres moments, c'est une volonté absolue et très clairement exprimée de ces artistes, aussi bien en peinture que dans le reste des arts, d'aller voir ce que font les autres et que c'est cette circulation ou cette confrontation avec ce qu'on appelait à l'époque le goût étranger, mais qui était essentiellement le goût de l'Italie, de l'Espagne, partiellement d'Angleterre, de l'Allemagne, de la Hollande, enfin des Pays-Bas, que d'une manière très très concertée, je crois que c'est l'historien d'art André Châtel qui appelle ça la technique du tamisage, on va chercher des choses, on va chercher des techniques, des pensées, des modes pour s'en imprégner, s'en enrichir et restituer quelque chose. Donc c'est cette espèce d'échange permanent qui a traversé toute l'Europe, qui est à bien des égards, enfin, qui de mon point de vue est passionnant.
Finalement, il y aura un métissage dans la musique française des 17e et 18e.
Alors je ne me pencherai pas, je n'oserai pas parler de la musique dont je suis loin d'être le spécialiste, pour qu'on soit peut-être en parler davantage, mais voilà. C'est évident qu'il y a des parcours très évident. Dans le théâtre, il est très flagrant que on a un rapport à cette époque assez complexe entre d'abord un rapprochement avec l'Antiquité. Enfin, c'est aussi la Renaissance qui a permis pour beaucoup de ces auteurs de redécouvrir les textes anciens, grecs ou latins. Ils ont voulu s'inspirer et un idéal, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr que les auteurs de l'époque aient compris précisément comment ces textes étaient joués, mais qui s'en sont fait un monde. Et puis que simultanément, par exemple, le théâtre est terriblement imprégné, ah oui, on le sait, par le théâtre italien, la commedia dell'arte ou l'art de cour italien, mais aussi, ce qu'on oublie beaucoup plus, par l'art espagnol, qui est essentiel au début du XVIIe siècle, et puis par la vieille farce française, par exemple. Beaucoup de fois, on entend dire Molière, ce grand comédien tellement imprégné par la commedia dell'arte, indéniablement. Mais certainement pas plus que pour 50%. On oublie à quel point, justement, il y a une tradition de la farce française qu'on connaît mal ou qu'on connaît peu, et qui est quel soubassement de beaucoup de choses chez lui. Comme d'ailleurs, on se rend compte que dans la comédie-ballet, l'esthétique sur laquelle il s'appuie est celle du ballet de cour, qui reste inconnue à la plupart des gens aujourd'hui, alors que c'est fondamental dans la compréhension de ce jeu qu'est la comédie-ballet.
À propos de ballet de cour, on va peut-être justement enchaîner avec François Lazarevitch, qui doit connaître pas mal de choses sur le ballet de cour. C'est quoi un ballet de cour, François Lazarevitch ?
Le ballet de cour, c'est une forme artistique qui réunit plusieurs genres artistiques, précisément, autant le texte que la musique et que la danse, et qui est propre au début du XVIIe siècle. Il est vrai que notamment la danse est une des grandes forces de l'art français, qui fait partie vraiment de l'étiquette de la cour et qu'on retrouve donc dans ces ballets de cour. Et bien souvent, c'était les aristocrates eux-mêmes qui tenaient les rôles dansés.
Oui, ce qu'il faut préciser, on confond souvent un bal à la cour avec le ballet de cour. Ça n'est pas un ballet, ça n'est pas un bal. Le ballet de cour, c'est un spectacle.
C'est un
spectacle qui raconte dans une intrigue plus ou moins lâche quelque chose. Dans le ballet de l'amour malade, musique de Lully, dansé par un des ballets lancés par le roi jeune, il y a pseudo un fil conducteur qui est que l'amour Cupidon est malade, donc qu'est-ce qu'on va faire pour le guérir ? Eh bien, on va lui donner une dizaine de potions, et ces potions sont les ballets qu'on va lui montrer pour lui rendre sa bonne humeur.
Finalement, la comédie-ballet pourrait être un mix entre le ballet de cour et le théâtre.
C'est pas un mix, c'est une évolution.
C'est une évolution.
Alors,
c'est une
évolution. On parlait des influences étrangères sur l'art français, mais le ballet de cour a également énormément influencé les pays voisins. Notamment, je me suis intéressé récemment à la danse en Allemagne, et on voit que dès le XVIIe siècle, l'aristocratie se formait à la danse, à la française, et puis il y avait des musiciens français, des maîtres de danse français, qui travaillaient donc en Allemagne et qui travaillaient à mettre en scène donc des ballets.
Mais pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser, entre guillemets, dans les musiques de danse ? Qu'est-ce qui vous fascine tant dans les musiques de danse ?
Alors, c'est venu petit à petit, c'est-à-dire que je me suis intéressé à la musique ancienne par le biais de tout simplement de la flûte à bec que j'ai pratiquée quand j'étais gamin parce que j'étais un peu trop petit pour jouer d'un autre instrument, comme beaucoup de gens m'ont fait jouer de la flûte à bec, ce qui m'a pas empêché après de jouer la trompette, de jouer d'autres instruments. Et puis j'ai rencontré des professeurs qui m'ont vraiment passionné. C'est une musique qui me touche, voilà. Il est important pour bien comprendre ces musiques, de s'intéresser à toutes les sources, parce que c'est une tradition interrompue. La musique ancienne, c'est une façon de concevoir le solfège, qui est finalement plus ou moins disparu, on pourrait dire, autour de 1800, progressivement. Notamment la part de l'improvisation, la part de l'ornementation, et aussi le contact direct avec la danse. Et donc je me suis intéressé aux musiques traditionnelles, parallèlement donc aux musiques anciennes, pour justement aller dans la réalité de ce qu'est le mouvement dans la musique, c'est-à-dire aller au contact de danseurs traditionnels, au contact de musiciens traditionnels. Et donc je me suis formé à la cornemuse, à la cabrette, à la cornemuse d'Auvergne, et puis à la musique irlandaise, à la flûte irlandaise. Et donc j'ai pu constater que jouer pour la danse, c'était un métier à part entière. C'est-à-dire que De même qu'on conçoit relativement facilement que l'improvisation est un métier, c'est-à-dire qu'on peut avoir passé 10 ans ou 20 ans dans un conservatoire sans pour autant être un improvisateur, c'est-à-dire on est obligé d'avoir une partition sous les yeux et de lire ce qui est écrit, eh bien la musique de danse c'est la même chose, c'est-à-dire c'est un métier que d'apprendre à gérer et à soutenir la danse et à gérer cette énergie malgré la simplicité des mélodies, c'est-à-dire que toutes ces mélodies traditionnelles, que ce soit françaises ou irlandaises, sont très facilement jouables quand on a un minimum, disons, de pratique instrumentale. Mais c'est pas parce qu'on sait les jouer qu'on sait jouer ces notes, même en mesure, que forcément on a la capacité de faire naître petit à petit, de faire grandir cette énergie qui est vraiment propre à la musique de danse, à toutes les musiques de danse qui sont vivantes. Voilà. Et donc c'est ça que j'ai voulu essayer de comprendre et de retrouver finalement dans la musique ancienne.
Et cette énergie, elle passe par le corps. Alors, qu'est-ce qui fait le sel des œuvres produites par le couple Molière-Lully, Vincent Tavernier ?
Je pense qu'il y a quand même effectivement une rencontre un peu miraculeuse entre ces deux grands auteurs. C'est aussi un contexte, parce que je pense que Molière et Lully ont porté le genre d'emblée à son accomplissement, mais qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens comme Beauchamp, par exemple, le chorégraphe, qui est constamment dans la partie, le poète Bansrade. Que ça fait partie aussi d'un climat, d'une culture ou d'une esthétique qui est commune autour, est une espèce de... Il y a manifestement, me semble-t-il, une euphorie, une période un peu miraculeuse qui correspond à la jeunesse du roi, à un moment où ces artistes-là sont, eux, au début de leur maturité, où le roi leur rend possible techniquement, matériellement, des choses qu'ils ne pourraient pas réaliser d'eux-mêmes dans leur théâtre, et tout un foisonnement, une effervescence, une jeunesse autour qui aboutit à cette création de la comédie belle et à cette évolution d'un genre. Elle se passe au moment des fâcheux, c'est même pas Lully qui est sur le coup, c'est beau Chant précisément qui écrit la musique, ou Molière pressé à cette idée que, au lieu de faire d'écrire une pièce de théâtre et puis entre chaque acte d'y mettre des divertissements qui où on parle tout à fait d'autre chose, enfin histoire de souffler, la danse, la musique, le chant sont au service de la même cause que racontent la même chose finalement, suivent le même fil conducteur que l'intrigue. Et soudain ça apparaît comme une révélation, comme quelque chose de différent. Ça l'est pas tout à fait fondamentalement, donc c'est probablement que Molière lui-même, sans même s'en rendre compte, a ce talent. Ce que ça révèle, pour moi, surtout chez Molière, c'est cette intuition du rapport entre la musique, le théâtre et la danse, et que pour lui, c'est un art complet. Il y a toute une tradition du 19e siècle qui veut faire de Molière un pauvre malheureux auteur brimé qui aurait tellement voulu écrire que le misanthrope. Et puis il y avait ce terrible tyran Louis XIV qui lui faisait écrire des stupidités du genre du bourgeois gentilhomme ou de ses fêtes galantes insensées. Le pauvre Molière souffrait. Molière souffrait pas du tout, il adorait ça. C'est évident, c'est flagrant. Dès qu'on se rapproche du texte, il y a des choses qui sont très lisibles. Bien sûr, on reparle du misanthrope qui n'est pas vraiment parlé une comédie-ballet, qui serait plutôt une grande comédie de pur texte. Si on fait simplement attention qu'il y a un seul moment, une chanson qui est glissée là-dedans, cette chanson est chantée par Alceste, que jouait Molière. Quand il y a un personnage qui chante quelque part dans la pièce et qu'il n'y en a qu'un seul qui chante, vous pouvez être sûr que c'est Molière qui s'était distribué. Donc il n'a pas fait ça sous la contrainte, il a fait ça parce qu'il adorait ça. On sait d'ailleurs qu'il avait des musiciens dans sa famille. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a eu de façon innée, il a certainement travaillé aussi beaucoup, ce goût, ce plaisir de mêler tout ça. Et c'est très flagrant dans ce rapport entre... Dans Monsieur de Pourceaunac, c'est très évident, où le rapport entre la manière dont Lully compose, dont Molière lui offre des parties de livret, ou dans la manière dont lui-même Molière s'amuse à manipuler la langue pour la rendre excessivement musicale, qui montrent cette espèce de goût. Et on parlait tout à l'heure justement d'un art qui serait un art de distraction pure ou d'oubli, où on voit que justement ils sont peut-être capables de générer un art qui est un art de plaisir, dans le sens où le plaisir serait vraiment un concept profond, une somme de tous les plaisirs, une ambition, une tension, où il faudrait à la fois que soit sollicité l'œil, l'oreille bien sûr, mais aussi l'esprit, le cœur, et qu'on arrive du coup à une œuvre d'une puissance, d'un raffinement, une tension vers un idéal de beauté, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais j'emploie le mot pour faute de mieux, parce que je n'ai pas la compétence universitaire pour en parler, mais que c'est plus quelque chose qui m'apparaît au fur et à mesure de ce travail. Et que ça, c'est assez flagrant, cette espèce de qualité poétique à ouvrir tout d'un coup une porte par le biais du monde du spectacle, où le spectateur se trouve tout d'un coup à cette capacité à s'ouvrir, à s'épater, dans le sens profond du terme. Je pense que ça c'est un des rôles de l'art, de nous faire accéder à des zones qui ne sont pas celles directement que pourrait nous apporter l'intelligence, par exemple, quoique ça fasse partie de ce concept de plaisir, mais pas seul.
La grande affaire et le plaisir, c'est le dernier air de Monsieur de Pourceaugnac. Marie-Geneviève Massé, qui a assuré la chorégraphie à l'endroit exact d'ailleurs où les spectateurs de Chambord ont pu voir ces ballets, ne travaille pas dans un esprit de reconstitution. Peut-être François ?
Oh ben, elle travaille en tout cas avec tout son bagage et sa connaissance de cette langue chorégraphique, donc qui est la belle danse. La belle danse, c'est le terme donc à l'époque pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui danse baroque. On l'appelait belle danse. Alors il y a la danse de cour et puis il y a la danse de théâtre. Bon, c'est une danse qui est codifiée, qui est notée. Il y a toute une écriture donc de cette danse qui est d'ailleurs très belle à voir graphiquement. Et donc Marie-Geneviève fait partie des grands noms, disons, de la danse baroque aujourd'hui. Donc effectivement, elle a suffisamment intégré tous les éléments propres à cette danse pour pouvoir restituer une danse qui est peut-être de temps en temps, qui peut avoir éventuellement d'autres influences, mais enfin, grosso modo, ce qu'on voit ressemble vraiment à de la belle danse.
Ah oui, parce que moi j'avais l'impression, en regardant le spectacle, que ça allait quand même plus loin que la danse, que la reconstitution, que entre guillemets.
Cette remarque-là, elle est typique. Je pense que quel était l'objectif qu'on s'est fixé tous les trois, François, Marie-Geneviève et moi, en montant Monsieur de Pourceaugnac, c'est de se dire, on a face à nous Molière et Lully qui sont profondément des experts, intuitivement et techniquement. Et donc on va essayer de faire en sorte d'être le plus près possible du texte, d'avoir cette démarche qui consiste à dire, on a la partition, on a le manuscrit Philidor, on a le texte lui-même, essayons d'être le plus près possible. Et plus vous êtes près de ça, plus on est étonné parce que ça produit, plus cette notion d'un art qui serait un art de naphtaline, un art inintéressant pour aujourd'hui, explose, totalement pulvérisé. Non, c'est un art qui a une force, qui est un art intuitif, qui est un art qui joue sur le rythme intérieur des gens. Non, c'est un art voilà, qui nous étonne aujourd'hui. Dès lors qu'on se penche réellement sur ce qui est dit, sur ce qui est fait, sur ce qui est pensé, sur ce qui porte ces auteurs-là, tout d'un coup, ça explose comme avec une modernité, avec une évidence, avec une joie, en l'occurrence aussi dans Monsieur de Pourceaugnac, qui étonne tout le monde. On nous demande, mais alors, telle ou telle figure de danse, vous avez une bonne idée. On est obligé de répondre, on n'a pas une bonne idée, on a fait juste ce qui était marqué.
Et on n'en a absolument pas l'impression, tellement ça nous paraît évident, naturel, et ça respire avec nous. Donc du coup, si je comprends bien, c'est en allant au plus près des choses qu'on s'en éloigne le mieux pour prendre de la hauteur.
Je crois que c'est comme ces tableaux qui sont recouverts par des couches et des couches de vernis.
On enlève le vernis.
Et dont on dit, ah oui, forcément, c'est l'époque, c'était triste, c'est vieux, c'est moche. Non, c'est parce que nous, avec notre façon, enfin nous, c'est parce qu'il y a 3 siècles ou quelquefois plus de couches successives, de mésinterprétations, de réinterprétations propres à chacune des époques, et que quand on essaie de revenir au plus près, pour autant qu'on puisse le faire, on n'a pas de vidéo, on n'a pas de DVD, on ne sait pas comment Molière a joué, mais quand on essaie d'être le plus honnête par rapport à ce qu'on trouve et ce qu'on voit, puis effectivement de se référer à ce que pouvaient être les... pour le mieux qu'on puisse en le percevoir l'époque, on est très surpris, on est très étonné. On parlait du ballet de cour tout à l'heure, il existe tout un recueil d'images, d'illustrations qui disent exactement ce qu'étaient les costumes de cette époque-là, et quand on les montre aux personnes, les gens sont effarés en se disant « mais Jean-Paul Goude n'a pas imaginé mieux », et c'est vrai. Thank you.